Voilà, merci. Mesdames et messieurs, ceci est un hors-série de « À bientôt de te revoir », ok ? Préparé avec la Fondation Ronald McDonald, sous l'égide de la Fondation de France, et qu'on a tourné à la Maison des Parents à Toulouse. La Maison des Parents, elle est à côté de l'hôpital et elle accueille, réconforte, loge des parents des enfants qui sont malades. J'ai rencontré une famille dont l'enfant a eu un cancer, qui est guéri maintenant, et qui a chopé une manière de réfléchir que même moi, à 35 ans, j'arrive pas à adopter. Quand il parle, on dirait que derrière lui, il y a le son « That's the power of love ». Ok, je vous laisse découvrir l'épisode. On se retrouve juste après pour un mini débrief. Attendez. Alors, la première personne qui va parler, c'est Lélian. C'est le jeune homme de 16 ans qui était malade et qui guérit. Ensuite, vous entendrez son grand frère, Marc-Antoine, puis sa maman, Michel Camille. Michel Camille, vous saurez pourquoi. C'est quoi le truc le plus bizarre que vous ayez fait ensemble en famille ?
Ben, on était très bizarre pour tout le monde, un peu à l'hôpital, parce qu'on était une famille très atypique.
Genre ?
Ben, j'étais déjà à avoir la seule mère à me bouger pour que j'aille jouer du piano et...
Aller courir avant de partir à l'hôpital ?
Oui, déjà aller courir, aller jusqu'au musée là, en courant dans toute la ville avec mon grand frère. C'était le seul à ramener des gros hamburgers à l'hôpital alors qu'il savait très bien que je n'allais pas les garder très longtemps dans l'estomac.
Et tu les mangeais quand même ?
Bah oui.
Et tu étais malade après ?
Oui, comme toujours.
Wow.
Mais non, mais de toute façon, nous on ne s'attardait pas sur les détails comme ça du fait qu'on allait rester comme ça. On se disait, faut trouver des solutions, on leur faire ce qu'on peut. De toute façon, ça sert à rien de rester sur ses acquis.
Il y a un truc qui te... tu me parles comme Emmanuel Macron. Il ne faut pas.
Mais j'ai beaucoup...
sur ses acquis.
J'ai beaucoup de projets, mais j'ai évité de les gueuler.
Mais en fait, vous ne le savez pas encore, mais c'est votre prochain président.
Mais franchement, mais depuis 3 heures qu'on se fréquente, je le regarde du coin de l'œil en me disant « Putain, il y a moyen en plus, c'est ça. »
Oui, grave.
Il y a moyen que ça... Que
non,
ça
mais les Français faire. Sont jamais contents, donc je risquerai pas d'être politicien.
C'est vrai ?
Président. Ah non, déjà j'ai du mal à gérer les élèves au lycée, alors si en plus...
Mais attends, mais t'es délégué, excuse-moi, mais t'es délégué.
J'étais délégué, ouais.
Ah, t'es plus maintenant ?
Non, pas cette année, parce que quelques-uns des élèves de l'année dernière... Non, parce que certains élèves avaient peur que je sois... Comment dire préférentiel, ça se dit ?
Que tu fasses...
Que je fasse des faveurs aux bons élèves.
Attends, cherche le mot. Partial.
Voilà, que je sois partial.
Ouais.
Alors que je suis totalement dans l'impartialité.
Ouais.
Et
comme Macron, c'est ce qu'il dit
voilà.
aussi.
Et tout le monde avait peur que... Et tout le monde avait peur que je sois partiel parce que j'avais l'image d'un bon élève.
Ouais.
Et beaucoup d'entre eux veulent se protéger en pensant que s'ils sont face à un bon élève, il va les saquer. Alors qu'au contraire, mon idée à moi, c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais élèves, il n'y a que des élèves.
Est-ce que tu as hâte de voter ?
Non, pas du tout. Parce que je ne me suis jamais intéressé à la vie politique. Que je ne saurais pas vraiment quoi dire face à ce genre de choses, mais que je suis pas quelqu'un de très intéressé par la vie du pays, même si c'est très irresponsable de ma part. Je préfère me concentrer sur ma vie, parce que notre vie à nous est déjà assez compliquée, alors si en plus on doit gérer tout le pays avec.
Tu fais de la, tu fais de la micro-politique.
On va dire ça.
Vous, dans la famille, vous êtes intéressé à la politique ou vous en foutez ?
Non, je peux pas dire que je m'en foute. Je vais plutôt dire que je n'ai pas en face ce qui pourrait me réjouir.
Ouais.
Donc, je m'en accommode. Et puis, très égoïstement, oui, je suis très, très heureuse en France. Je trouve qu'on a un pays mais tellement magnifique et qui fait tellement pour nous.
C'est vrai que c'est beau.
Que ça m'interroge quand je vois autant de personnes mécontentes. Après, politiquement, je pense que les politiques arriveraient à faire du bon travail s'ils travaillaient tous ensemble plutôt qu'à se casser mutuellement. Mais voilà, c'est
ça,
mon
c'est
idée.
L'humanité,
et toi, Marc-Antoine ?
On dirait Macron, vraiment.
Bah, niveau politique, en ce moment, je lis Machiavel.
Ok, du coup, donc t'es parti dans un...
Un bon philosophe qui a étudié tous les systèmes politiques autrefois à la Renaissance. Ouais. Et ce que je peux voir et ce qu'il dit... C'est qu'en effet, le peuple va être ingrat par rapport à tout ce qui va être pris comme décision. C'est un fait. Et je comprends mon frère qui ne veut pas forcément s'y intéresser parce que Il a une vie plus intéressante, je pense, que s'occuper d'une gestion d'un pays. En tout cas, la gestion de la France est une des meilleures au monde. Et plus on voyage, plus on s'en rend compte. La preuve, ça a été le fait que notre petit frère soit en vie aujourd'hui. On a vu des gens du monde entier revenir dans cet hôpital ici à Toulouse. Et on peut voir que la France a mis l'accent sur la santé, sauver les gens. Et pour moi, ça, c'est la preuve qu'on a un beau pays, magnifique.
Merci d'avoir mis le doigt sur le pitch de votre présence ici aujourd'hui. Et qui d'entre vous veut faire une synthèse de ce qui est arrivé à Lélian et pourquoi on se rencontre aujourd'hui ?
Nous sommes ici parce qu'en fin 2016, Lélian a déclaré un rhabdomyosarcome. C'est un cancer des muscles qui s'est positionné derrière son œil gauche. Nous avons été merveilleusement pris en charge par Purpan.
C'est l'hôpital dans lequel on se trouve en ce moment.
Voilà. Qui nous a dirigé, très bonne idée, vers la maison des parents.
C'est la maison dans laquelle
qui
on se trouve.
Qui nous a apporté le réconfort que l'on avait besoin à ce moment-là. Autant architecturalement parlant que humainement parlant. Ben, ça a permis simplement aux frères et sœurs de se retrouver. Parce que Lian était en hématologie, il pouvait pas. J'étais obligée d'y aller toute seule. Et du coup, on se retrouvait le soir à la maison des parents.
Est-ce que tu peux me dire juste, Michel, c'est quoi la définition de l'hématologie ? Parce que je suis pas sûre de.
Alors, hématologie, oncologie, oncologie, cancer, hématologie, le sang.
Ok.
Donc, cancer.
D'où l'hémato.
Voilà. Ah.
T'inquiète. Et donc ça, c'était en 2016.
En 2016, il a été traité jusqu'en janvier, février, mars, ici. Puis on a été dirigé sur Paris, où nous sommes restés 4 mois pour faire de la protonthérapie.
La protonthérapie, c'est ce dont tu parlais en off, qui est la nouvelle genre forme de chimio.
Radiothérapie. Une nouvelle forme de radiothérapie qui a été faite qu'à Paris,
ouais.
Qui existe aussi dans d'autres pays, mais qui pour l'instant est à l'état un peu de bêta, de prototype.
Ouais.
Donc c'est extrêmement cher, mais c'est beaucoup plus précis et ça demande aussi beaucoup plus de manœuvres. Dont la demande de construction de moulage pour le visage, pour tenir le visage, pour pas qu'il ne bouge. Et c'est ce qui a permis, entre autres, de sauver grandement mon œil, qui aurait, avec une radiothérapie, aurait demandé qu'on le retire, parce qu'il aurait perdu tout ce qu'il avait.
Donc là, t'avais une sorte de, quoi, de masque pendant la thérapie ?
Pendant la thérapie, j'avais un masque et on me clouait à la table pour pas que je puisse bouger.
J'ai les jambes qui sont molles. Ouh, putain.
En fait, nous avons eu la chance ici d'être dirigés vers Paris, parce qu'ici c'est de la radiothérapie. Sur Paris, c'était la protonthérapie. Alors ça se fait aussi sur Nice et sur Berlin. La protonthérapie a l'avantage d'être très précis. Mm-hmm. C'est-à-dire que sur un visage en construction, comme le visage d'un enfant, la radiothérapie peut engendrer des déformations après.
Bien
parce
sûr.
Que la croissance n'est pas égale.
Ouais, ouais.
Des troubles de la croissance avec la glande hypophyse et des troubles neurologiques, mm-hmm. des troubles... ça il a par contre, mais la protonthérapie a limité énormément les troubles. Il a quelques troubles de la concentration, il a... À cause de ça, comment on appelle ?
Cataracte.
Donc, il ne voit pas de l'œil gauche. Mais ça, c'est opérable. Il a des petits soucis, mais c'est tellement rien à côté...
D'avoir perdu mon nez.
Voilà.
De pouvoir perdre mon nez.
Ouais. Ouais, c'est sûr.
Les médecins m'avaient juré que je devrais perdre mon nez.
Et ils m'ont juré, carrément. Ils ont dit, tu sais quoi, tu vas voir.
Le médecin m'avait dit que c'était sûr et certain que je perde mon nez. Étant donné les conséquences et tout ça, mais étant donné que la protonthérapie est quelque chose d'assez nouveau et quelque chose d'assez révolutionnaire, on a pu garder mon œil.
Donc il est passé à 3 dixièmes, ça ne devait pas remonter, c'est impossible que ça remonte, c'est ça en fait ce dont il parle, et il est remonté à 12 dixièmes.
Mais attends, mais tu vois mieux qu'un rapace là, tu vois mieux qu'un aigle.
Non, là de nouveau avec la cataracte, il ne voit plus, mais derrière la cataracte. Derrière la cataracte, il voit super bien.
En fait, la cataracte, c'est juste comme une sorte d'emballage de cadeau de Noël.
C'est comme une tâche sur une lunette, sur la lunette qu'on peut pas enlever.
C'est comme quand
c'est comme se réveiller le matin
et que tu t'as mis tes doigts sur tes lunettes.
Oui, ou c'est comme se réveiller le matin avec quand on a des taches dans les yeux, quand on a des choses entre les sourcils et ne pas réussir à l'enlever.
T'as des choses entre les sourcils quand tu travailles le matin, toi?
Les cils, chérie.
Mais t'as quoi?
Oh, entre les cils, pardon.
Oh, ça va. Donc c'est vrai qu'en effet, vous êtes une famille atypique dans le sens où quand même vous avez vécu une épreuve qui est la pire chose qui puisse arriver à une famille. Et ça va maintenant?
C'est aussi une des plus belles choses qui puisse arriver
ah,
à une famille.
Ah, ça m'intéresse. Pourquoi? Je veux tout savoir.
On n'a jamais été aussi proches. Je compare souvent, et j'en parlais tout à l'heure, au fait qu'on était au bord d'une falaise. C'était horrible. Il pouvait mourir à chaque moment, mais la vue était magnifique. Quand je parle de la vue, je parle des émotions qu'on a vécues et surtout le fait de se rendre compte bah, qu'on a une vie. Et il y a une phrase qui dit qu'on a deux vies. Je dis peut-être une erreur, mais en tout cas, la vie commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une.
Ouais.
Et clairement, il nous a énormément impacté. Il a changé nos vies. Aujourd'hui, je pense que ça lui a apporté aussi énormément. Oh, je rebondis vite fait sur la protonthérapie, mais... De base, moi, on l'avait présenté comme un soin qui pouvait lui permettre d'être guéri sans l'endommager.
Mmh.
Ou moins, en tout cas. Aujourd'hui, je vois qu'il a 16 de moyenne, j'avais pas autant. Il est bilingue. Il parle déjà anglais. Donc, je pense qu'il nous avait dit qu'il aurait du mal à l'école.
Mmh.
Aujourd'hui, il a répondu très fortement à tout ça. Il est encore plus fort qu'avant. Donc, je pense que c'est très inspirant pour nous aussi. Une des plus belles aventures qu'on a connues, ouais, au final.
Et vous disiez aussi tout à l'heure que genre vous étiez plutôt chill par rapport à la vie aujourd'hui, plutôt tranquille quoi, par rapport aux choses qui peuvent se passer, puisque
aujourd'hui on peut avoir un objet qui casse devant, on le jette et on continue à avancer en fait. Ça a remis l'importance sur la vie, sur l'humain, sur ce qu'on a autour de nous, sur le fait de pouvoir voir, entendre, passer des moments en famille. D'ailleurs, la maison des parents, c'est ce qu'elle nous a permis de faire. Je pense que c'était un des soutiens les plus forts qu'on pouvait lui amener.
Est-ce qu'il y a quand même des moments où tu avais envie de lâcher l'affaire à ce moment-là?
Beaucoup de moments, mais jamais lâcher. Parce que c'est impossible. De toute façon, je suis trop jeune pour abandonner la vie. Enfin, j'avais des choses à vivre, j'avais des rêves. J'avais un drapeau du Japon dans ma chambre pour dire que je voulais voyager. J'avais... des jeux, je voulais voir ce que ressemblerait le futur, je voulais faire plein de choses. Et je me suis jamais dit que ce serait possible d'abandonner. Heureusement, j'avais ma maman, mon grand frère qui était là à côté de moi pour me montrer qu'il y avait toujours des choses à manger à la maison, que si je perdais 2 kilos entre chaque chimio, ben, j'en regagnerais 2 kilos entre chaque.
C'était quoi le truc que t'aimais bien manger pendant
Les couscous.
Les couscous.
Couscous.
C'est quoi,
des côtes de porc.
J'ai jamais entendu ça.
Ah, c'est délicieux.
Ah ouais, mais j'adore manger.
Couscous, pommes dauphines, champomis.
Mais génial. Un peu mariné ou quoi? Ah ouais, super.
Oh là, ça c'était notre plat préféré, la viande. On était des gros mangeurs de viande. Avec Marco, on mangeait des hamburgers. Pas du tout bon. Hein. Mais non, c'était super bon. Et même si c'était dur, le fait que par exemple, quand je devais manger, on devait chauffer à fond. J'ai pas le droit d'être à côté de quelqu'un qui épluchait, mais. On passait outre
ce genre de choses.
Oui, parce qu'il y a des champignons sous la peau qui peuvent nous infecter, ce genre de choses. Quand je sortais dehors, il fallait que j'aie un manteau, lunettes, casquette pour ne pas être grillé par le soleil. Parce qu'à cause de la protonthérapie, l'œil autour devient très sensible et peut cramer au contact du soleil.
Ah ouais.
Enfin, la peau autour de l'œil.
Ouais, ouais.
Et je ne pouvais pas sortir sans un masque quand j'étais en aplasie. Enfin,
c'est quoi l'aplasie?
C'est quand on n'a plus de cellules blanches, plus aucune protection.
Ah oui, les globules?
Globules rouges.
Plus de globules rouges.
D'accord.
Et ça arrivait très souvent avec les chimios, parce que les chimios, c'est très très dur pour le corps humain.
Ouais, ouais. Ouais, tes globules, ils dansent la zumba à l'intérieur de ton corps en disant genre, je sais pas où aller, je sais pas qui défendre.
Ah, ils sont plutôt morts en fait, parce que chimio, c'est un poison qui détruit tout ce qu'il y a dans le corps. Et c'est là qu'on se rend compte que le corps humain est vraiment très puissant, parce qu'il est capable d'encaisser ce genre de choses pendant presque un an, toutes les semaines, sans pouvoir manger pendant ce moment-là.
Attends, tu me dis que c'était en 2016? C'était en 2016. Oui. Et là, on est en 2019 et tu as 16 ans.
Oui.
Tu avais donc, si mes calculs sont justes, 12 ans.
Voilà. Ça
oh, c'est que dalle pour moi. Pour moi, j'adore les mathématiques. Donc, Est-ce que tu as changé d'état d'esprit, de caractère depuis?
J'ai changé de prénom déjà.
Alors ça, je veux trop savoir cette histoire.
Écoute, mais la révélation, je l'ai eue que hier soir. Il faut savoir que...
J'adore l'univers.
Je m'appelais Michel, mais en fait, je m'appelle Michel Camille. Je m'appelle Michel Camille, à la base. Michel, c'est quelqu'un de très sensible.
Ouais, selon la signification de
ton
prénom.
Oui, je ne le savais pas, mais okay. À la base, j'étais très sensible.
Ouais.
Le jour où Lilia a eu un cancer, j'ai décidé de m'appeler Camille. Et en fait, Camille est une guerrière. Sans le savoir, involontairement, j'ai changé de prénom parce que j'ai décidé de me battre. Alors oui, je suppose que j'ai changé. J'ai changé parce que je crois que, même si je me mets le stress quand je passe des examens, je prends des décisions. Tu vois, je te disais tout à l'heure, j'ai décidé un matin, je me suis levée, j'ai dit je vends la maison. J'ai vendu la maison et j'ai éliminé 90% de tout ce que je possédais. Et je me suis sentie tellement libre. Riche, mais libre. Et là, je m'engage sur d'autres projets, des projets qui me tiennent à cœur. En fait, je ne fais que ce qui me tient vraiment à cœur. Et je veux que mes enfants en fassent comme ça.
Ok, donc je fais un résumé de ce qui s'est passé jusqu'ici. On est avec Michel Camille, Lilian et Marc-Antoine. Donc Lilian est un jeune homme de 16 ans qui fut malade par le passé et était guéri. Non. Non. Qui fut malade par le passé. Et maintenant, t'es guérie et tu joues divinement bien du piano et t'apprends le japonais sur Internet et t'analyses les chansons de Kanye West. Et donc, Michel Camille. Et tu te fais appeler Michel Camille maintenant ou juste Camille ou Michel ?
Je me fais appeler Michel sur mon lieu de travail. Je continue à m'appeler Michel sur mon lieu de travail parce que là-bas, je peux donner de l'amour. Il n'y aura pas de, il y a pas de personnes toxiques sur mon lieu de travail.
Il n'y a pas des vieux qui sont cons ?
Non. Non, non.
Il n'y a pas de
non, il y a des mauvais, il y a de mauvais caractères.
Ah ouais.
Mais ils n'ont plus rien à prouver. Et ils n'ont pas, ils ont juste envie d'avancer dans les années qui leur restent, heureux aussi. Tout simplement.
Je continue ce tour de table dans deux secondes, mais juste là, je veux savoir, est-ce qu'il y a des vieux qui tombent amoureux à l'EHPAD ?
Oui, ils m'ont dit que j'étais désirable.
Non, pas de toi. J'adore cette famille. C'est trop mignon. Tu m'as vraiment répondu genre, ouais, ils m'ont dit comme quoi j'étais désirable. Prends le micro.
Est-ce que tu sais ce que c'est, monsieur de 98 ans, que tu te dis, oh, où t'es désirable aujourd'hui? C'est énorme.
Incroyable.
Non, non. Alors, il faut savoir que dans une maison de retraite à côté, il y a eu un monsieur et une dame qui se sont mariés. La dame a 80... Non, à 100 ans, je crois.
What?
Oui, et le monsieur plus jeune, mais
j'espère
il vient de mourir.
J'espère qu'ils ont fait un contrat de mariage.
Et chez nous, ben, je pense qu'il se passe...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Des choses dans mon dos, hein, j'espère.
Ah ouais?
Je l'espère sincèrement.
J'espère que c'est dans mon dos.
Ouais. Et moi, j'ai entendu un truc, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais comme quoi les personnes âgées dans les EHPAD, on leur mettait des couches pour pas qu'ils puissent mettre la main dans le tiroir à malice.
Ah non, j'espère qu'ils peuvent la passer dans la couche en même temps. Mais non, non. En fait, les protections, c'est vraiment pour... mais quand il y a une incontinence, c'est comme ça, à un moment donné, c'est ce qui arrive. Non, non, après, ils font ce qu'ils veulent de leur petit truc, hein.
De leur sac. Et donc je continue ce tour de table. Marc-Antoine, toi t'es le grand frère de Lilian.
Oui.
Et t'as 10 ans de plus que lui.
Exactement.
Et donc si lui il avait 12 ans au moment où...
Il avait 22 ans.
Attends, mais laisse-moi 5 minutes. Est-ce que le fait d'être une famille comme ça, genre hyper soudée, est-ce que vous ça vous donne envie de faire des familles, les gars?
Oui, mais... pas de suite.
Ouais.
Faut trouver la bonne personne.
Bah ouais. Ah bah ça, regarde, regarde-nous.
Vous y êtes encore à chercher. Hein.
Non, moi j'ai pas le temps. Et toi, t'as envie ?
Bah alors moi j'ai que 16 ans. Bah,
je sais
mais,
bien, mais
bon. Voilà déjà. Et puis oui, enfin ça doit être magnifique. Il y a des enfants que je supporte pas, mais il y en a d'autres que je trouve magnifiques. Mais oui, mais je pense que ça, le jour venu, je me poserai pas la question. Moi, de toute façon, j'ai envie de profiter de ma vie.
si j'ai une copine, de profiter d'elle le plus possible.
Profiter d'elle ?
Non, mais avec pas dans elle, le mauvais sens.
Oh, je t'embête.
Et oui, peut-être qu'un jour j'aurai des enfants et quand j'y repense, je serai le père le plus gaga du monde, ouais. Je pense, le plus protecteur possible, comme tous les parents essaieraient de le faire. Et j'essaierai d'être un meilleur père que celui qui a été le mien, parce okay. que j'ai eu beaucoup de mal avec le mien. Et quand on parlait de bons points qu'a eu le cancer, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses de ma mm-hmm. vie, de me débarrasser des bonnes personnes, des mauvaises personnes, pardon, et de récupérer de bonnes personnes autour de moi. Et je pense que j'ai presque peur de ce que je serais devenue si j'avais pas vécu le cancer.
C'est vrai.
Pour moi, ce qu'on vit fait de nous ce qu'on est. Et beaucoup de gens aimeraient changer ce qui leur est arrivé dans le passé, mais pour moi, les choses arrivent pour une raison. C'est le cas, il leur sera arrivé totalement autre chose et ce sera encore pire. Et moi, je suis heureux de ce que je suis maintenant. Et j'aimerais pas du tout changer ce qui s'est passé avant, et voilà.
Est-ce que... Ça, c'est une question que je voulais te poser, mais je sais pas trop comment... à articuler ça, mais en gros, est-ce que t'as l'impression d'être un vrai jeune homme de 16 ans ? Est-ce que des fois tu fais des trucs débiles et tu vois ? Tu me dis oui.
Oui, j'ai... En fait, pour moi, c'est pas parce que je suis plus mature, entre ouais. guillemets, que les autres, hein, c'est sans vouloir être égocentrique que je dis ça,
ouais.
Que je suis plus un enfant. J'ai les mêmes problèmes que des adolescents. J'ai ma crise d'adolescence comme tous les autres.
Ah ouais, t'as
simplement,
fait quoi ah, tu peux pas le dire, il y a ta daronne.
Non, mais je me souviens pas de tout. Mais je fais beaucoup de conneries. Ça m'arrive souvent de tirer la tête et de me rendre compte que je fais exactement ce pourquoi je gronde certains adolescents de mon âge.
Je gronde, mais vraiment Emmanuel Macron, tu te calmes direct. Attends, je te fais une liste de conneries. Michel, ne regarde pas et tu me fais oui de la tête si tu les as faites. Est-ce que tu as déjà volé la voiture de ta mère ? Ok, il me dit non. Est-ce que tu as déjà volé de la viande au supermarché ? Il me dit non. Est-ce que tu as déjà découpé des antivols à la halle aux vêtements ?
Écoute, ils sont nuls, tes trucs. Genre, si tu dois faire quelque chose, fais-le bien au moins.
Est-ce que... Ah bah, excuse-moi, quoi ?
Notre mère nous a toujours dit, si vous volez un jour, volez 1 million d'euros à une banque. Pas pour moi.
Amen. C'est vrai que moi, j'ai un projet de voler une entrecôte au Monoprix, c'est pas ouf comme...
C'est mon père qui m'encourageait à voler des choses dans les Monoprix.
Yes. On le salue, peut-être pas de ouf, du coup. Toi, t'as fait des conneries, ça se voit que toi, t'as fait des conneries. Ok.
C'était un peu le prototype avant moi.
C'est vrai. C'était le moule.
Lui et sa sœur.
Qu'est-ce que t'as fait comme conneries, s'il te plaît ? Des conneries qui ne sont pas sous le coup de la justice parce que ça va être diffusé. Donc du coup.
Je pense que de toute façon, je suis déjà passé à la télé pour. La plus grosse chose que j'ai faite, je suis passé à Touche pas à mon poste partout. J'ai fait le plus gros projet X de France en fait.
Mais non.
Mais qui était organisé. Du coup, bon, je suis quand même parti au tribunal, mais on a été acquitté. On avait une très bonne avocate. Et du coup, on avait 3 DJ internationaux, le DJ du Queen à Paris, un DJ new-yorkais. 13 kilos de sang, on avait 500 personnes, M6 qui est venu. Tout
mais
monde.
Non.
La piscine, on l'avait colorée en fuchsia.
Mais non.
On avait une équipe de breakers internationaux au milieu de la scène, entre la piscine et la scène. On avait mis plein de canapés dans le parc, il y avait 3 hectares et pff, c'était la folie.
Comment t'es avec des potes en train de boire un coup, ellipse, projet X, piscine fuchsia, 300 kilos de sang, de quoi ? Mais pourquoi ? Je comprends, dis-moi, aide-moi.
Alors, c'était très simple, il faut déjà une équipe de fous, parce que c'est pas quelque chose de très commun. On a vu le film,
ouais.
Projet X, je pense que beaucoup l'ont vu
ouais,
ici.
Ouais.
Et il s'est passé juste quelques jours pour qu'on organise ceci. Donc il y avait la fête de la musique, on a été récupérer tous les meilleurs DJ. Après on a dû vérifier toutes les cartes d'identité, il y avait près de 500 personnes.
Pour que les gens soient majeurs ?
Ouais bien sûr, on ouais. a fait payer l'entrée, on a tout fait. 8
Combien
euros les garçons, 5 euros les filles. Et tout le monde devait ramener une bouteille. Donc vraiment c'était avec peu on peut faire beaucoup.
Rien que tu me parles de loin de la logistique, je suis déjà épuisée par ce projet.
Alors, il faut savoir que j'ai appris ce qui s'était passé par ma direction.
Non.
Pourquoi ? Je n'étais pas au courant.
Comment ta direction d'un EHPAD, ils sont au courant d'un projet X français ?
Parce que c'est passé à la télévision et que je ne l'avais pas vu. M6. Parce qu'en fait, le journaliste d'M6 s'est passé dans la piscine, a tombé sa caméra dans la piscine. Du coup, ils l'ont mal vécu. Et mais moi, j'ai appris tout ça après. Voilà.
J'avais oublié.
On peut pas tout dire de suite à sa maman.
Ouais, oui. Je...
Mais du coup, ça s'est très très bien passé. On avait la sécurité qu'on avait engagée pour sécuriser la maison, etc.
D'accord. Et c'était la maison de qui ?
De mon père. Non. Il était là.
Non.
Ah, ben il fallait le motiver. Il a été motivé.
Mais c'est lui qui a mis le fuchsia dans la piscine. Excuse-moi, non, je suis obsédée par le fuchsia dans la piscine.
Ça, c'est moi. C'est un colorant officiel que tu achètes sur Internet. C'était superbe. Ça part en deux semaines après. Sauf que ça, la couleur change. Entre-temps, c'est vraiment pas beau.
Ah ouais.
C'est vraiment le moment de la soirée avec l'éclairage, les breakers, tout le monde qui danse, les DJ. La police qui venait d'ailleurs, c'était super parce que ça faisait comme dans le film. Donc, ils venaient. Et le DJ faisait chut à tout le monde et tout le monde se couchait.
Mais non.
Comme dans le film. Et les flics, du coup, le laissaient faire parce qu'ils trouvaient qu'on était bien organisés. Et, du coup, j'entends même, elle me disait il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a organisé une soirée, ils sont déjà au tribunal. Et nous, tout s'est super bien passé.
Est-ce que quand tu seras vieux, tu seras wedding planner, du coup, tu seras l'agent ? Il y a un problème, franchement, il n'y a pas de problème. Quand j'étais jeune, j'ai fait un projet X.
Mes enfants du coup ?
Non, je sais pas, en tant qu'un métier.
Mais disons que j'ai envie de réorganiser des soirées comme ça.
Ah bah devine.
Partout dans le monde.
T'imagines dans la liste aux invités, avec tes prestataires, genre, vous avez du sang, vous avez besoin ou pas ? Tu t'imagines noter ça ? D'accord, donc pas de sang, très bien. Non, ah, du son, je croyais du sang.
Non, 13 kilos de sang.
Ah, de son.
C'est les enceintes. Non, non, pas de sang. Hein.
Mais je me demandais. Parce que,
pas de sang.
Mais parce que je pensais que comme il faisait un faux trash, je pensais qu'à la fin, il trashait tout et que voilà.
Non, non, non.
De son, très bien.
On a voulu faire passer une petite chèvre, comme dans le film, ça, on a voulu, mais ça, ça aurait fini en ben sang, je pense.
Est-ce que vous pouvez tous les trois, s'il vous plaît, fermer les yeux pendant quelques secondes et me dire c'est quoi ? Parce qu'on parlait tout à l'heure avec Lilian de la mémoire olfactive. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi votre meilleur souvenir olfactif ?
À la maison des parents à Paris, je me souviens, on a regroupé tout le monde dans la maison. On a fait comme une fête. Et du coup, il y avait des gens des îles qui ont cuisiné un poulet avec des épices des îles. Et l'odeur qui me revient direct, c'est ce moment où on a tous souri, on dansait tous. Il y a juste une famille qui tirait la gueule parce qu'on faisait du bruit. Mais ça m'a donné encore plus envie d'être heureux, en fait.
Trop mignon.
Du coup, c'est le souvenir qui me revient. On s'était même mis à danser. Il nous apprenait la danse des îles.
C'est quoi la danse des îles ?
La danse des îles, j'ai pas vraiment réussi à la faire. Je pourrais pas trop expliquer. C'était des pas très expressifs.
Ok.
En tout cas, sacré souvenir. Et du coup, juste après, il y avait une énergie tout à fait différente dans la maison. On avait transmis notre folie, je pense, un petit peu.
Mais ouais, parce qu'on parlait tout à l'heure ensemble du fait que vous croyiez beaucoup en l'univers. Et là, ça ressemble à une énergie de l'univers qui se... Comment ? Comme une fuite, mais bonne. J'ai perdu un verbe, mais c'est pas grave.
À ce sujet, j'ai gardé des liens avec des mamans de Guadeloupe et de Martinique. Mm-hmm. Et on se contacte encore. Hein. En fait, les seuls parents, ce qui est triste, les seuls parents avec qui le contact s'est coupé, mais de par leur fait, c'est chaque fois on imagine que c'est parce que l'enfant est mort. C'est ce que me disait Lilian une fois. J'ai dit, je comprends pas, j'ai plus de nouvelles d'eux. Il me dit, mais c'est normal, il devait mourir. Et ça doit être tellement violent pour des parents de continuer après, voilà. Et pour en revenir à quelque chose de plus gai, les mamans de Martinique, une maman de Martinique m'a dit un jour, une maman magnifique, tellement belle, avec un petit garçon de 2 ans, à qui on avait enlevé un œil, et qui me dit, franchement, on vous aurait rencontré avant, jamais je n'aurais fait ma dépression. Et ça a été un cadeau pour moi d'entendre ça.
Oh waouh.
Et alors moi, le souvenir olfactif...
Alors vas-y.
J'ai couru au jardin des plantes un jour où toutes les fleurs étaient épanouies. C'était magnifique et je sentais les fleurs, c'était voilà. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que ça sent bon. J'ai juste oublié que j'étais super allergique. Et donc, j'ai continué à courir. Et pendant un mois, mais j'étais malade. Malade. Mais de l'asthme. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est un souvenir heureux ou pas. Mais bon, c'est un souvenir marquant. Oui. Le jardin des plantes, avec toutes ces fleurs et qui nous accueillaient, c'était tellement beau. Voilà.
Alors, moi, c'est très particulier. C'est l'odeur d'un savon.
Ok.
Pendant le cancer, étant donné que à cause du traumatisme que m'a fait l'hôpital, je sentais une odeur de corps en décomposition à chaque fois que je rentrais dedans. Dans tous les endroits qui me stressaient, comme l'hôpital, j'avais cette odeur et j'arrivais pas. Je devais me boucher le nez à chaque fois que je rentrais dans l'hôpital. Et même en bouchant le nez, même respirer par la bouche, j'ai l'impression de respirer quelque chose de toxique à l'intérieur de l'hôpital. Et j'étais tellement comme ça, tellement dans ça, que tout mon corps avait l'impression d'être bouché. Même mon esprit, j'ai l'impression qu'il était bouché au monde autour de moi. Et la première fois qu'on allait voir l'acupuncteur, j'étais pas du tout heureux. J'étais pas du tout content. Je voyais tout gris, tout puait, tout sentait mauvais. Et puis, je passe un moment chez lui, il me détend. Et quand je sors de là, j'ai l'impression que tout est plus grand, hein, tout est lumineux. Et je lui dis, mais c'est bizarre, comment ça se fait que c'est aussi lumineux? Et je vais dans la salle de bain qui puait. Et je sens le savon, que je trouvais une odeur horrible, et je me dis, il sent tellement bon. Il sentait la fraise, c'était merveilleux. Et c'est là que je me rends compte que ce dont je vous disais, à quel point l'esprit joue une grande partie pendant le cancer, c'est que, oui, il y a une grande partie là-dedans. Et il faut vraiment se battre. Et on se rend pas compte à quel point, mais c'est l'esprit qui joue le plus sur la façon dont on va vivre le cancer.
Je crois que la grande chance que l'on a eue, c'est de rencontrer les bonnes personnes. Le bon oncologue.
Ouais.
Le bon, enfin, oui, tout ce personnel médical qui a été exceptionnel. Quand Lilian ça a démarré, il a fait, je l'ai amené chez l'ophtalmo parce qu'il avait l'œil qui descendait, en fait. Et l'ophtalmo n'a pas compris, il l'a soigné pour une allergie. Au bout de 3 jours, j'y reviens. J'ai vu son visage se décomposer. Il m'a dit, il faut faire un IRM dans 3-4 jours. J'ai dit, non, je pars à Purpan. Je suis arrivée ici. J'ai été au PPR.
C'est quoi PPR?
En face, Pierre-Paul Riquet.
Ok.
La chose improbable, je tombe sur 2 médecins qui passaient par là. Je leur dis, vous allez savoir me diriger. Ils m'ont dit, oui, vous êtes la maman de Lilian. C'est improbable. Quand on sait que c'est un rhabdomyosarcome, le médecin, l'oncologue qui l'a pris en charge, c'est une spécialiste du rhabdomyosarcome qui travaille sur toute l'Europe. Et je me suis dit, il y a quand même, voilà, c'est... Peut-être que Lilian a un cancer, mais tout est fait pour que tout aille bien.
Ouais.
Que des belles choses.
Ah ouais, c'est...
Voilà. Et donc, oui, on s'est autorisé à être mal pendant quelques jours.
Ouais.
Mais Marco a rebondi, il a dit à son frère, tu vas guérir. Et c'était sûr, il ne pouvait que guérir.
J'imagine que quand on reçoit une nouvelle comme celle-ci, on est un peu en bad. C'est toi qui a réagi en premier et ensuite toi t'as suivi et ensuite...
Je me suis dit que si c'était les derniers moments, il fallait les vivre à fond, il fallait sourire, il fallait prendre du plaisir parce que les derniers moments, ben, on les vit. Et si c'est pas les derniers moments, ben, quand même on kiffe nos moments. Et c'est peut-être bizarre de penser comme ça, mais on fait peut-être partie des 1% à penser comme ça, mais en tout cas, je sais qu'on a même réussi à impacter les autres qui commençaient à sourire et je sais que les gens avec qui on s'est super bien entendu, mince, leur enfant est guéri. Bref, il y a des cas où il y a eu des abandons, etc. Mais je pense, pour répondre à la première question, que la volonté de l'esprit, donc ta volonté vraiment intérieure, va te guider. Et le corps est déjà fait pour guérir de base. Donc il faut déjà donner cette direction à ton corps, croire en toi. Et je pense que ça, c'est une chose très importante. Je pourrais nommer vite fait Joseph Murphy. J'ai lu Le pouvoir du subconscient après. Et je me suis rendu compte que je pense que l'amour qu'on lui a porté, les pensées qu'on a portées à ce moment-là, qui étaient très fortes et très innocentes en fait, c'était même pas prévu d'amener nos pensées vers là. Mais je pense que la nature est bien faite, parce que l'amour peut sauver. Et je pense que ça fait une petite différence en tout cas. Mais quand même, je tiens à dire que la France, c'est la, aussi une base de tout ça, parce qu'il n'y aurait pas eu de système, il n'y aurait pas eu ces docteurs, ouais. Ces docteurs qui ont fait des études également. Donc il y a des écoles
ouais.
qui forment des gens qui soignent, les hôpitaux. La protonthérapie, je crois qu'il y a eu 1 milliard de mis dessus pour guérir de la même manière, mais sans endommageant ouais, moins ouais. les cellules d'une personne.
Et puis en France aussi, on peut faire des projets X sans aller en prison derrière.
Mais c'est génial.
C'est quand même un beau pays.
C'est génial. Les gens aiment faire la fête en France. Ils savent être sérieux, les Français, râleurs. Ils savent faire la fête. J'adore la France.
Ok, merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, sachez qu'ils vont bien. Ils se checkent tout le temps. Ils sourient, ils s'aiment. Ils sont hyper hypnotiques. On dirait qu'ils sont sortis de cette horreur avec un sentiment de toute puissance hyper chelou à observer, en vrai. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'était le dernier de la série Dans la maison des parents, à écouter sur toutes les plateformes. Et moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt de vous revoir.